podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires en compagnie, comme à l'habitude, de Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça se déroule de ton côté?
Très bien, Antoine. Cette semaine, ça bouge. On dévoile le plan stratégique à toute l'équipe cette semaine. Fait que toujours heureux d'être en mode stratégique, stratégie stratégique pour faire avancer l'organisation.
Et je suis curieux, plan stratégique, ça s'étend sur combien d'années maintenant? On dirait que dans le passé, on était souvent sur ces plans stratégiques de 4-5 ans, mais j'avais eu sur le podcast récemment Jean-Marc Léger qui me disait maintenant un plan stratégique, c'est sur 6 mois. Comment ça se déroule un peu de votre côté?
Ben, c'est une excellente question. On est sous le framework de Scaling Up Gazelle. Donc, un des outils qu'on utilise, c'est la Vivid Vision, qui est un plan de 5 ans. On l'a dévoilé là, il y a un an de ça, donc on est sur la... On débute la deuxième année sur 5. Par contre, on a en cours de route utilisé un framework qui s'appelle le Tree Hag, le Tree Year Highly Achievable Goal. On a testé cette méthode-là. On n'a pas vu la pleine efficacité de notre côté. Donc, on vient de changer d'outil sur une vue à un an qui s'appelle le CEO Tool 2.0 qu'on a travaillé avec l'équipe de gestion il y a 2 semaines dans un offsite de 48 heures. Donc, c'est un nouvel outil qu'on déploie sur une vue d'un an à l'organisation. On centralise tout ça après ça dans notre outil de gestion centrale qui est ClickUp, pour vraiment être capable de faire un suivi là, pratiquement hebdomadaire là, de chaque point là, à faire avancer, autant trimestriellement que de l'année. Mais dans ClickUp, on a réussi à rattacher toute notre vision 5 ans qui nous amène jusqu'en 2027 de notre côté. Donc, différents outils, mais notre vue là, qu'on dévoile, c'est vraiment là un an. La vue 5 ans elle a déjà été dévoilée là, par le passé dans les dernières années.
Merveilleux. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra vous donner un petit coup de main parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle de ce fameux ChatGPT. C'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Et là, c'est les pays qui semblent se rebeller un peu et on voudrait commencer la discussion aujourd'hui avec la nouvelle qui est sortie, l'Italie. L'Italie qui semble être un des premiers joueurs à vouloir interdire ChatGPT à l'intérieur même de son pays. Jonathan, peux-tu nous en dire un petit peu davantage?
Ben effectivement, très gros tremblement de terre là, de ma perception à moi. Il y a 4 jours, tous les fournisseurs d'Internet qui sont présents en Italie ont reçu l'ordre de couper l'entièreté de l'accès à la technologie d'OpenAI, dont ChatGPT. Selon les autres instances, ça serait de manière temporaire, le temps que OpenAI bouge sur certains éléments que le gouvernement demande. Le fondamental en arrêt de ça, c'est que le gouvernement d'Italie mentionne que ChatGPT et OpenAI violent à répétition un peu la législation qu'il y a dans ce pays-là, entre autres au niveau de la gestion des données, donc la protection là, des données personnelles, et également sur le côté qu'il y aurait une obligation de demander l'âge des utilisateurs pour certains qu'il n'y ait pas de gens mineurs qui utilisent l'outil, entre autres, de ChatGPT. On entend beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui bougent. Semblerait-il qu'il y aurait des informations confidentielles. On a vu au niveau des banques, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, des acquisitions de banques qui ont été faites, des merge and acquisition dans les dernières semaines. Semblerait-il qu'il y aurait entre autres de l'information qui aurait sorti de manière très confidentielle au public. Et le grand suspect serait qu'il y aurait probablement des gens qui auraient travaillé sur la fusion-acquisition de cette banque-là, qui auraient mis de l'information dans le système de ChatGPT et que l'information se serait retrouvée ailleurs. Et on a vu qu'il y a environ 2 semaines, il y a des utilisateurs qui se sont rendus compte qu'ils avaient accès de manière temporaire aux recherches de d'autres utilisateurs. Donc, peut-être à partir de là que les gouvernements commencent à se poser des questions sur comment OpenAI gère l'information confidentielle. C'est très opaque à l'heure actuelle, surtout que c'est un système qui apprend de l'information qu'on lui transmet. Et c'est pas très clair comment cette information-là, elle est reprise après ou elle est... cloisonné à ce moment-là dans le côté privé et confidentiel. Donc, on pourrait penser que, par exemple, dans nos entreprises, on transmet de l'information dans le système de ChatGPT pour nous aider à produire un document. Mais cette information-là confidentielle, peut-être qu'on transmet, là, ça se peut qu'elle ressorte dans une conversation de quelqu'un d'autre éventuellement parce que, selon les prémices, le système apprend de l'information qu'on lui transmet. Donc, il y a un aspect qui n'est pas très clair à l'heure actuelle de comment OpenAI gère cette partie-là, confidentialité. Et là, certains gouvernements se braquent. On avait entendu que la Chine avait fait de même pour certaines applications de ChatGPT. Là, c'est l'Italie qui met son pied par terre. Reste à voir à quel point ça peut, si ça reste longtemps, cette interdiction-là, à quel point ça peut ralentir peut-être l'Italie versus d'autres pays. Il y a un enjeu un petit peu de productivité, efficacité versus confidentialité des données. Il y a vraiment des questions à se poser en tant que pays, en tant que groupe mondial. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis où est-ce qu'on s'en va? Surtout que ça donne un énorme avantage quand on l'utilise bien. Mais il y a toujours cet aspect-là de la donnée qu'on lui transmet. Où est-ce que ça va au final, puis à quel point c'est confidentiel nos discussions avec ChatGPT, parce que je me répète, extrêmement opaque à l'heure actuelle. On n'est pas capable de savoir comment c'est traité l'information puis comment que le système réagit à travers tout ça. Là.
Et ce qui est fascinant, et je vous mettrai peut-être des liens dans les notes de l'épisode, j'ai écouté cette semaine un entretien de Sam Altman, qui est le CEO et qui fait partie également du groupe de fondateurs derrière OpenAI, et également la CTO d'OpenAI, qui est d'ailleurs une des dames les plus en vue présentement dans le domaine technologique. Et vous les écoutez et vous vous rendez compte que autant qu'ils comprennent le pouvoir de cette technologie, autant qu'ils ne savent pas jusqu'où cette technologie peut aller. Et c'est très intéressant qu'ils le disent de manière excessivement transparente, c'est-à-dire qu'ils le disent haut et fort, ça se peut que tout ça se retrouve dans une mauvaise direction. Il pourrait y avoir des points de non-retour, ils ont utilisé ces termes-là. Et à leur défense, et quand ils se font poser des questions, mais pour quelle raison dans ce cas-là avez-vous lancé cette technologie-là? Mais ils ont simplement dit, de toute façon, c'est inévitable. L'intelligence artificielle était parmi nous. Si c'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. Et mieux vaut lancer le tout le plus rapidement possible, faire des apprentissages et par la suite optimiser les prochaines versions. D'ailleurs, je pense que, du moins, c'est ce qu'il disait dans l'interview, je le mettrai dans les notes de l'épisode, que dans la version ChatGPT 3, si on demandait à la plateforme comment créer une bombe, la plateforme était capable de nous aider à créer la bombe. Mais si maintenant on pose cette question-là dans GPT 4, automatiquement, la plateforme ne nous donnera pas les informations. Comme quoi que les mauvaises requêtes, les requêtes faites pour de la désinformation, pour des pratiques violentes et dangereuses, tranquillement, ils sont capables de s'assurer qu'on ne soit pas capable de donner de l'information. Jusqu'où? J'imagine que même eux, encore une fois, ne le savent pas. Mais c'est pour dire que en ce moment, même les gens qui sont derrière la fondation, tout ça ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on voit peut-être avec l'Italie, des gens qui autant peuvent avoir peur de où est-ce que l'information qu'on donne est stockée ou également où cette technologie-là peut nous amener, je serais pas surpris qu'il y ait d'autres pays qui suivent également les pattes de l'Italie derrière ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan?
Ben effectivement, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont surtout lever la carte de la confidentialité des données pour jouer sur cet aspect-là, mais faut revenir un petit peu en arrière, je pense, à travers tout ça, parce que initialement, OpenAI était supposé d'être une initiative ouverte, de dire on va développer la technologie de l'intelligence artificielle rapidement de manière ouverte pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne et s'assurer qu'il y ait le moins de mauvais usages à travers tout ça. Là, la problématique qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ça a été beaucoup plus fermé dans les dernières années et demie, dans le but et le fondement d'OpenAI. Mais faut pas oublier qu'il y a une main en arrière de tout ça, qui est monétaire, qui est la main de Microsoft, qui pousse énormément en coulisses pour accélérer le lancement des différentes versions de la technologie d'OpenAI et de l'intégrer dans ses propres modèles d'affaires et ses propres logiciels, ce qui cause à l'heure actuelle un petit peu le chaos. Puis de ce qu'on a entendu dans les dernières journées, dernières semaines, des sources qui sont quand même assez certaines, c'est qu'il y avait une guerre où il y a un petit peu une chicane qui s'est faite entre OpenAI et Microsoft parce que OpenAI ne voulait pas tout de suite lancer le modèle 4 de ChatGPT parce qu'il nous dit que c'était pas encore assez prêt. Et Microsoft, à la plus haute instance, donc Satya Nadella, aurait poussé vraiment pour le sortir. Et de là également, toute l'équipe d'éthique de Microsoft qui était probablement mise à la porte. Moi, je pense que c'est plus cet aspect-là qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que OpenAI est de plus en plus fermé. Microsoft pousse en arrière pour accélérer la mise en application des différentes versions à ce moment-là. Et c'est là qu'on risque un petit peu de perdre le contrôle s'il y a un côté monétaire qui est si fort en arrière de tout ça, parce que Microsoft veut dépasser Google et tous les autres compétiteurs avec ça. Donc, je pense que c'est cet élément-là qu'il va falloir regarder en avant. Et c'est là que je pense que les gouvernements commencent un peu à se braquer puis dire, oh, attendez, là, je pense qu'il y a peut-être une problématique et l'effet domino que ça crée d'utilisation de cette technologie-là, elle est tellement rapide qu'il faut peut-être mettre un frein à tout ça. Et de là qu'on a vu dans les dernières journées, plusieurs personnes à l'échelle mondiale signer un peu une pétition pour être capable de dire « Oh, attendez, là, il faut prendre peut-être une pause, il faut réfléchir en tant que société où est-ce qu'on veut s'en aller avec cette technologie-là qui est extrêmement rapide et extrêmement forte. » Et là, on a vu, Antoine, t'as sorti une nouvelle, entre autres, Elon Musk qui est un petit peu l'instigateur là, de cette nouvelle-là et des centaines d'experts qui ont levé la main et qui ont dit « Oh, attendez, là, pour mettre une pause au minimum de 6 mois et se poser les bonnes questions et arriver peut-être avec des consensus, peut-être à l'échelle mondiale ou à l'échelle de chaque pays. Là, il y a un mélange de cultures, il y a un mélange de politique à travers tout ça. Donc, ça va être, je pense, vraiment spécial de regarder ça dans les prochaines semaines, prochains mois, prochains trimestres. bien, ça va vraiment bouger. Et si on regarde cette initiative-là, entre autres, qu'Elon Musk appuie, on a des signataires quand même assez importants, là, entre autres à Montréal. Puis là, je vais dire son nom, puis je m'excuse si je le mentionne
Yoshua.
Pas correctement. Mais
Yoshua
Bengio. Voilà, exactement. Donc, un des pionniers canadiens de l'intelligence artificielle qu'on a la chance qu'il soit à Montréal, c'est lui qui a poussé beaucoup dans les dernières années, qui était de l'avant-plan. Et lui-même, dans une conférence de presse là, qui était virtuelle à Montréal, il disait clairement là, qu'il pense que la société n'est pas prête à faire face à cette force-là, cette puissance-là et le potentiel qui peut être mis du mauvais côté de la force là, à travers le monde, qui pourrait mettre en danger beaucoup de choses. Là.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Ben, c'est un sujet qui est d'une fascination totalement incroyable. J'en ai même parlé sur LinkedIn un peu parce que je venais de voir l'article sortir et je trouvais l'idée noble, peut-être un peu utopique. Je pense que c'est dans un marché libre dans lequel on vit, c'est impossible, à moins qu'il y ait vraiment des consensus gouvernementaux, de stopper l'avancement d'une technologie, surtout quand tu vas dire à un Microsoft de ce monde, qui est la deuxième plus grande entreprise en capitalisation boursière, d'arrêter des efforts de commercialisation. Dans un marché libre, ça, c'est utopique de penser tout ça. Ceci étant, je pense que la réflexion est intéressante de se dire, là, attention, là, cette technologie-là, et la majeure partie des gens dans l'industrie vont le dire, c'est peut-être la plus grande technologie jamais créée ou dans le top 3. Avec l'Internet et l'arrivée des téléphones mobiles avec tout le volet des applications. C'est certainement dans le top 3 et parmi ce top 3-là, c'est peut-être dans le top 1. Ce que beaucoup de gens vont dire, beaucoup de joueurs qui sont dans le domaine technologique aux États-Unis. Peut-être également un petit aparté qui est intéressant dans tout ça. Tu mentionnais Elon Musk, Jonathan, mais Elon Musk, à la base, il faut le savoir, hein, c'est un membre fondateur de OpenAI. Et à la base, OpenAI, on en avait, je crois, déjà parlé sur le podcast, était bâti comme un organisme à but non lucratif pour faire des recherches sur l'intelligence artificielle pour être certain que on soit capable en tant que société, en tant qu'entreprise, de bien comprendre l'ampleur que cette technologie-là peut avoir sur nous. Le temps a évolué. En 2018, il a décidé de quitter le navire parce que je pense qu'il y a eu des divergences d'opinion. Ça a été rendu public entre lui et le CEO, Sam Altman. OpenAI voulait devenir à ce moment-là une entreprise à profit, ce qui est très correct, c'est leur prérogative. Et c'est à partir de là qu'on a pu entendre vraiment des narratives revenir de Elon Musk et de d'autres personnes comme quoi, attention, cette technologie-là, si on ne la contrôle pas bien, elle va à une vitesse qu'on ne peut pas nécessairement arrêter. C'est très, très, très puissant. Et je pense qu'à un certain point, c'est bon de juste prendre un pas de recul et de se dire, OK, à quelle vitesse tout ça va aller? À quelle vitesse tout ça va aller? Est-ce qu'on va être capable de le faire? Je ne le sais pas. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas ces connaissances-là. Mais clairement, quand on voit que des emplois peuvent être vraiment éliminés, littéralement éliminés du jour au lendemain avec une technologie de la sorte, quand on voit que énormément de choses peuvent changer d'entreprises et de création d'applications qui peuvent être créées pour le bien, mais également pour peut-être le moins bien. Je pense que ça vaut la peine qu'il y ait un petit 2 minutes de discussion parce que je sais pas si tu as l'article devant toi, Jonathan, mais il y avait 6 points qui ont été mentionnés qui allaient être des points de réflexion et de discussion par rapport à cette période d'accalmie que proposaient ces différents signataires. Je ne sais pas si tu as devant toi ces différentes questions-là.
J'ai malheureusement pas les points devant moi parce que c'est un résumé à l'heure actuelle que j'ai. Mais pendant que tu fais la recherche, je fais une parenthèse par contre sur une des questions qui va être super difficile à répondre puis qu'il n'y aura probablement pas de blanc ou de noir dans la réponse. C'est à travers tout ça, là, à partir de quel moment qu'on définit que l'intelligence artificielle a une conscience et qu'est-ce qu'une conscience aussi à travers tout ça, là? Donc ça, il n'y aura jamais de vraie réponse qui va être noir ou blanc. Et ça va venir tellement impacter des choses de comment on devrait limiter à ce moment-là le pouvoir ou la capacité de ce système-là. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'interagir physiquement, mais c'est juste une question de mois ou de trimestre avant que quelqu'un mette ça dans quelque chose qui a une capacité physique. Puis on pourrait très bien penser que, par exemple, le système d'OpenAI crée un script lui-même qui permet de se déployer sur un serveur qui est dormant quelque part, puis à ce moment-là, ils viennent de se multiplier en quelque part, puis ce script-là peut avoir un autre mouvement ailleurs sans que l'humain s'en rende compte au bout de la ligne. Donc, je pense que tu as trouvé les
ouais,
points.
J'ai la pétition en quatre questions. Donc, bon, au final, les signataires de la pétition posent quatre questions essentielles qui devraient guider la recherche. Question numéro un. Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges? Soyons honnêtes, c'est ce qui peut arriver. Je veux dire, ça peut créer énormément de contenu, du bon, du moins bon contenu. Et on a vu ce qui s'est déroulé dans les différentes élections dans le passé. L'information, la mauvaise information peut impacter notre société à grande échelle. Deuxième question. Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants? Soyons honnêtes. Oui, ça peut rendre des entreprises plus efficaces. Mais quel est le prix à payer? Est-ce que pour rendre des entreprises plus efficaces, on est prêt, et là je sors des chiffres, là, à supprimer 10, 15, 20, 30 % des emplois? Qu'est-ce qui va se dérouler quand ces emplois-là ne seront plus d'actualité? Oui, peut-être sur le long terme, on peut comprendre que c'est des emplois qui ont moins de valeur, mais si tout se fait très rapidement, qu'est-ce qui se passe dans la société? Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être étalé à travers le temps? Donc ça, c'est la deuxième question qui revient dans la pétition. La troisième, devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux et plus intelligents que nous, nous rendre obsolètes et nous remplacer? Encore une fois, on voit l'intelligence artificielle à la vitesse qu'elle apprend. Est-ce que ça peut se dérouler? Je vais laisser votre imagination y répondre. Quatrième question, devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Vous voyez, il y a des choses qui sont très profondes, mais si ces chercheurs-là qui sont dans le domaine depuis très longtemps, Jonathan l'a mentionné, Joshua, Elon Musk, on ne le présente plus, et énormément d'autres qui ont signé cette pétition-là, c'est qu'ils ont de l'information que vous et moi n'avons pas. Et ce sont des questions assez profondes. Moi, je le répète, je crois que c'est utopique d'arrêter le développement d'une technologie, mais comme ce qui s'est déroulé dans les dernières années avec les médias sociaux, j'ai l'impression que des régulations vont devoir être très rapidement intégrées à l'intelligence artificielle. Parce que soyons honnêtes, là, OpenAI, avec l'application de ChatGPT, ça a été lancé en décembre, je crois bien, c'est 100 millions d'utilisateurs qui sont allés chercher en l'espace d'environ 2 mois. Jamais une application dans l'histoire de l'humanité, qu'on parle de Facebook, Google, Instagram, TikTok, n'a eu cette croissance-là. On parle d'une croissance sans précédent. C'est devenu quelque chose que tout le monde utilise dans son quotidien. Ça a du très bon. On en a déjà parlé sur le podcast. Mais effectivement, il y a des questions très profondes comme ça qui se doivent d'être posées. Et moi, j'ai été agréablement surpris de lire le tout parce que je crois que fondamentalement, c'est important d'adresser l'enjeu maintenant. Que d'attendre et de voir un petit peu ce qui va se dérouler. Parce que, je le répète, les gens qui ont créé cette technologie-là le disent en entretien dans les canaux les plus regardés aux États-Unis comme quoi ils pensent que ça peut aller dans un point de non-retour. C'est eux qui le disent. C'est les créateurs de la technologie. C'est pas uniquement des gens qui la consomment. C'est les créateurs. Donc, ça en dit long sur les questions qu'on doit avoir autour de cette technologie-là.
Effectivement, puis le gros problème en tant que société, je pense, c'est toute la valeur qui est créée avec l'accessibilité qui est créée dans un si court laps de temps. Pensez-y, pour ceux qui l'ont pas encore utilisé, là, ce que je vous dis, c'est si vous aviez la chance aujourd'hui pour entre 0 à 20 $ par mois, là, parce que vous pouvez utiliser la version gratuite ou avoir la version payante à 20 $ US, vous avez accès à pratiquement n'importe quel expert à travers le monde sur n'importe quel sujet qui vous répond en dedans de 30 secondes. Et vous avez pratiquement un adjoint ou une assistante virtuelle qui peut solutionner un paquet de problèmes que vous avez dans votre tête en moins de 30 secondes. Ça n'a aucun sens. On se posait la question il y a un an. Tout le monde dit que ça serait pratiquement impossible. Mais la réalité, c'est entre autres une des utilisations que ChatGPT permet pour si peu de dollars par mois, toute la création de valeur qui est faite, puis à quel point ça rend un peu obsolète la connaissance et l'expertise de certaines personnes, certains humains. Puis c'est là que les gouvernements vont devoir rapidement se mobiliser pour créer des projets pour venir encadrer tout ça, puis les impacts qui vont venir à travers tout ça, puis jusqu'où qui permettent d'aller. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est qu'on est à l'heure actuelle vraiment sur un point que moi j'appellerais un point de rupture, où cette technologie-là est proche d'atteindre le stade de l'AGI, dans le fond, le stade où ce que l'intelligence artificielle a l'équivalent d'une conscience. Donc, elle peut agir par elle-même et on n'a plus nécessairement le plein pouvoir sur son comportement et comment qu'elle bouge à travers le temps, comme un humain dans le fond. Mais la problématique, un humain, on est capable de l'encadrer dans des règles, dans des lois, dans l'amener en prison et s'il y a un problème en tant que société, d'encadrer ces comportements-là. Maintenant, il faut se poser les questions, comment qu'on fait ça en format virtuel avec conscience virtuelle. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à travers tout ça.
Ça peut être dangereux. Et soyons aussi honnêtes, oui, il y a eu peut-être 10 ans de travail pour construire cette technologie-là, mais on le sait très bien, et les gens qui sont les insiders dans le domaine le savent très bien, que cette technologie-là et cette puissance de technologie-là existe parmi nous depuis plusieurs années. Mais ça fait juste 2 mois et demi, 3 mois qu'elle est sur le marché, là. Et c'est ce qu'elle a été capable d'atteindre. Donc, c'est pour aussi remettre des choses en perspective, c'est de se dire, s'il n'y a pas un certain contrôle, ça génère une croissance à la vitesse lumière, à la vitesse grand V ici. Donc, je pense, et moi, c'est mon avis personnel ici, je ne suis pas un grand connaisseur de l'intelligence artificielle, je l'utilise comme monsieur et madame tout le monde va l'utiliser, je l'utilise pour mon entreprise. Mais je pense que fondamentalement, c'est tellement puissant que si il y a pas des réflexions des gens qui ont du pouvoir dans notre société, ben écoute, qu'est-ce qui va se dérouler avec tous ces jobs-là qui du jour au lendemain peuvent devenir obsolètes? C'est quand même vraiment des questions qui sont très importantes parce que toi et moi, on est des organisations à profit, Jonathan. Au final, on veut générer du bien dans le monde, mais on est une entreprise, on veut générer le maximum de revenus, de profits possibles, puis s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier. Si au final, la prémisse de base est de toujours revenir à l'intelligence artificielle et de limiter certains emplois parce qu'on est capable de mieux le faire avec l'intelligence artificielle, ben ultimement, ça a des effets, je sais pas exactement comment le dire en français, mais deflationary. Et c'est pas nécessairement tellement bon pour la société. Donc, je crois que ça doit faire partie de certaines discussions.
Et il faut se poser également une question de si les gouvernements font comme l'Italie d'interdire l'accès à un outil aussi puissant que ça. C'est quoi les impacts en tant que société? Parce que ChatGPT, présentement, et la technologie d'OpenAI est en train de faire des miracles sous l'aspect de la santé, de la recherche également, des traitements possibles. Donc là, on peut penser à tous les chercheurs en sciences et en santé de l'Italie qui, présentement, va falloir qu'ils passent par un VPN, donc ils se cachent un petit peu pour aller utiliser cette force-là pour accélérer à ce moment-là le bon côté qui est prendre soin des gens autour au bout de la ligne. Donc là, ça va être quoi à ce moment-là? Où est-ce qu'on l'interdit? Quand est-ce qu'on le permet? Pour quelle utilisation? On pourrait même se dire, ben les chercheurs de l'Italie, présentement, s'ils mettaient leur fruits de leurs travaux là-dedans, mais est-ce qu'il y a des chercheurs des États-Unis qui pourraient avoir accès à ces données-là de manière problématique au niveau de la confidentialité? Donc, ça apporte tellement plus de questions d'en parler que c'est fou, là.
Définitivement. Puis juste, j'ai retrouvé le terme déflationniste, une économie déflationniste. Donc, des fois, hein, on perd les termes un peu en anglais. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, ça va être la plus grande invention de notre génération et de loin, parce que ça va régler des enjeux que aucun humain ne pensait pouvoir être capable de régler. Mais d'un autre côté, ça peut créer d'autres soucis. D'où l'idée d'avoir ces réflexions-là maintenant et de ne pas attendre qu'ils soient un petit peu trop tard. Donc, j'aime l'initiative. J'aime le fait de voir des gens qui ont du pouvoir se poser ces questions-là, au moins ils se les posent. Sont-ils capables d'avoir un impact? Ça, je pense que c'est un petit peu plus complexe ou du moins beaucoup plus complexe. Mais tout de même, c'est bon d'avoir ces réflexions-là. Autre point sur le sujet, Jonathan, où il y a d'autres nouvelles peut-être qu'on pourrait partager avec notre audience?
Ben, je dirais dans la même veine que tu viens de mentionner, je pense que c'est plus une sonnette d'alarme que les gens lancent. Beaucoup de bruit marketing à travers tout ça. Ils sont jamais capables d'arrêter là, toute la machine, mais au moins, il y a une voix qui s'élève et les gens commencent à en parler, en espérant qu'il y ait peut-être des gens du gouvernement du Québec et du Canada qui nous écoutent aujourd'hui et qui tentent de faire bouger les choses au niveau législatif ou du moins réflexion, mais il va falloir bouger rapidement. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont besoin d'un petit peu d'opinion, d'expertise, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Je dirais en rafale peut-être quelques petites nouvelles que j'ai vues passer dans les dernières journées. Première des choses, mon idole de jeunesse et d'adolescence en termes d'entrepreneur, Richard Branson, qui accomplit des choses extrêmement incroyables. Si vous n'avez pas lu ses nombreux livres qu'il a fait, c'est hallucinant. Cet homme-là a, je pense, 12 vies en une. C'est très inspirant. La nouvelle, malheureusement, qui vient de sortir, c'est qu'une de ses nombreuses entreprises vient de se placer sous Chapter 11, qui est l'équivalent de la loi de la protection de la faillite ici, là, du côté du Canada. Donc, Virgin Orbit aux États-Unis, qui est maintenant sous Chapter 11. On va voir ce qui va arriver pour la suite. Est-ce que ça va être liquidé ou pas? Mais ils ont injecté, entre autres, je pense, là, près de 2 milliards depuis le début de l'aventure dans cette aventure-là, dans cette entreprise-là, qui avait pour but éventuellement là, de lancer des satellites en orbite. Donc, ne pas confondre avec Virgin Galactic, qui était un petit peu l'entreprise d'avant, Virgin Orbit. Mais on n'a qu'à penser à ce moment-là qu'Elon Musk a probablement volé beaucoup
de clients
ou de marchés. Exactement, que Virgin Orbit probablement allait chercher, que Starlink, pas Starlink, mais SpaceX a été cherché au bout de la ligne en cours de route. Donc, très triste de voir ça. Mais ça nous apprend qu'il faut oser et il faut ne pas avoir peur de l'échec. C'est un petit peu le mantra de Richard Branson. Donc, il faut le voir quand même d'un côté positif. Ils ont essayé des choses, ils bougent. Ça sera à voir pour la suite. Dernière petite nouvelle avant de se quitter. La semaine passée, les chiffres de Statistique Canada au niveau de l'inflation canadienne, on est passé de 5,9 à 5,2 annualisé. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le cadre où ce que le gouvernement tente de ramener l'inflation autour d'une cible d'environ 2 %. Donc, les indicateurs qu'on voit passer présentement, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt commencerait à faire son effet. Selon les spécialistes, il y a toujours un délai là, généralement de 12 à 24 mois avant de voir le plein effet. Donc, espérons que cette descente-là atterrisse en douceur. Ça sera à voir devant nous, mais c'est positif, donc à voir si la Banque du Canada va relever ses taux là, dans les prochaines semaines. Mais jusqu'à date, ça semble aller dans la trajectoire qu'il le désire, à une vitesse qui est quand même logique au bout de la ligne. Donc, des bonnes nouvelles pour les entrepreneurs qui nous écoutent si ça continue à aller dans cette tendance-là devant nous.
Fantastique.
Des nouvelles de ton côté, Antoine, que tu veux rajouter ou?
C'est toi le professionnel pour ça. C'est toi le professionnel pour ça. Donc, je pense que ça conclut bien le podcast. C'est toujours intéressant de discuter avec toi d'un sujet aussi important que l'intelligence artificielle. Je le redis, moi, je trouve ça totalement formidable et exceptionnel. Mais clairement, je pense que c'est bien que le maximum de gens qui ont du pouvoir soient capables d'avoir des réflexions autour de tout ça. C'est important. Ça change nos vies, littéralement. Ça change la vie de beaucoup de gens, littéralement. C'est important de se poser les bonnes questions dès maintenant. Vas-y, Jonathan, peut-être pour terminer aujourd'hui, je te donne le dernier mot.
Fantastique. Mais pour ceux qui se demandent encore comment utiliser ChatGPT dans vos organisations, on a un podcast qu'on a lancé qui est en vogue énormément. On le voit au niveau des vues, là, ça bouge beaucoup. Donc, sur le podcast Pivot, commandité par OpenMind et Dev2CEO, on a 15 cas concrets, je me répète là, d'un épisode à l'autre, mais d'utilisation de ChatGPT pour le marketing. Et aujourd'hui, cet après-midi, on enregistre 10 cas concrets pour des équipes de développeurs pour ChatGPT. Donc, ça va être disponible là, dès la semaine prochaine sur le podcast Pivot. Donc, voilà comment vous pouvez l'appliquer vraiment dans vos organisations devant vous.
Fantastique, Jonathan Éveillé. Merci d'avoir été avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.